bien, nous nous retrouvons pour les mots de la foi avec Elisabeth. Guy est à la technique. Nous poursuivons cette année nouvelle. Alors, bonne année à tous. Nous poursuivons donc la lecture de l'encyclique « Loué sois-tu ». Et nous en sommes dans le chapitre 2 à la partie qui concerne la destination commune des biens et le regard de Jésus sur cet environnement, cette création. C'est au paragraphe 93. Alors, destination commune des biens. C'est un point que déjà on a abordé peut-être dans d'autres textes, en tout cas dans la doctrine sociale de l'Église. Mais ici, l'intérêt de ce texte, c'est que le pape vraiment rassemble dans un texte fort cette réflexion. Alors, qu'en est-il ?
Alors, le pape commence par dire que nous sommes d'accord sur le fait que la terre est un héritage commun dont les fruits doivent bénéficier à tous. Et que par conséquent, toute approche écologique doit incorporer une perspective sociale.
Oui, alors ça, c'est quand même très... Là, voilà. D'emblée, il place la perspective. Il n'y a pas d'écologie sans perspective sociale. Alors, qu'en est-il de ce fait de la propriété privée ?
Alors, le principe de subordination de la propriété privée à la destination universelle des biens et par conséquent le droit universel à leur usage est une règle d'or du comportement social.
Donc là, effectivement, une tradition chrétienne qui rappelle cela. Et c'est pas nouveau, puisque finalement, saint Thomas, c'est vieux déjà, évoquait justement la permission de voler quand c'était absolument nécessaire à l'entretien de la vie. Bon, donc, ça n'est pas reconnu comme absolu ou intouchable le droit à la propriété privée. Il y a toujours cette fonction sociale subordonnée à la personne humaine. Le pape, d'ailleurs, rappelle Jean-Paul II, « Dieu a donné la terre à tout le genre humain, pour qu'elle fasse vivre tous ses membres sans exclure ni privilégier personne. »
Oui, et Jean-Paul II toujours disait qu'un type de développement qui ne respecterait pas et n'encouragerait pas les droits humains, personnels et sociaux, économiques et politiques, y compris les droits des nations et des peuples, ne serait pas non plus digne de l'homme.
Oui, alors là, on a des choses fortes qu'on a souvent entendues, mais qu'on oublie, puisque effectivement, là, droit humain, c'est vrai que souvent, droit de l'homme, on voit très bien les droits politiques. En France, on rappelle la Déclaration des droits de l'homme. Droit politique, on y est presque tous. Personnel, aussi. Sociaux, déjà, c'est un peu moins évident. Mais y compris les droits des nations et des peuples. Ça veut dire qu'en fait, il ne doit pas y avoir d'écart aussi important entre les nations. On en est loin, on a encore beaucoup de chemin à faire. Donc l'Église, nous dit-il, défend le droit à la propriété privée, mais sur toute propriété pèse une hypothèque sociale pour que les biens servent à la destination générale que Dieu leur a donnée. Donc la terre est pour tous. Ce qui, nous dit-il, remet sérieusement en cause les habitudes injustes d'une partie de l'humanité. Alors rappelons, mais ça c'est un peu excessif, que 10% des personnes possèdent 50% de la richesse du monde. Ça fait quand même, je crois même que c'est 5%. Cela fait quand même des écarts très très importants, mais bon. Mais la question c'est de ne pas laisser une partie de l'humanité, et c'est ce que le pape va nous dire un peu plus loin.
Oui, parce qu'il rappelle que le riche et le pauvre ont une égale dignité, parce que le Seigneur les a faits tous les deux. Petit et grand, c'est lui qui les a faits. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et ça entraîne des conséquences pratiques.
Oui, alors là, le pape va loin et il emprunte à des pays d'Amérique latine, et on sait qu'en Amérique latine, il y avait ce système ancien des latifondias, hérité de la colonisation, et qu'aujourd'hui encore, il y a d'immenses propriétés qui appartiennent soit à des personnes, soit à des multinationales. Mais bon, bref, peu importe, si chaque paysan a quand même de quoi vivre. Et alors c'est là qu'il reprend, en prenant l'exemple du Paraguay, tout paysan a le droit de posséder un lot de terre raisonnable où il puisse établir sa demeure, travailler pour la subsistance de sa famille et avoir la sécurité de l'existence. Mais pas simplement le couvert, la maison, le toit et la nourriture. Et le pape rappelle les moyens d'éducation technique, des assurances, la commercialisation des produits, c'est-à-dire qu'il demande que chacun puisse non seulement extraire de la terre en étant agriculteur de quoi manger, mais qu'il puisse aussi participer à la vie sociale, à la vie politique, avoir les moyens d'éducation. Donc cela va plus loin que simplement nourrir les hommes. Or, on sait que pour l'instant, on n'en est même pas à nourrir tous les hommes. Au 95, justement, le pape revient sur cet environnement.
Oui, il dit que l'environnement est un bien collectif, patrimoine de toute l'humanité, et donc sous la responsabilité de chacun d'entre nous. Et que celui qui s'approprie quelque chose, c'est pour l'administrer pour le bien de tous.
Le pape poursuit en allant chercher un exemple ailleurs, en Nouvelle-Zélande. Et là, son expression va très loin. Le commandement « tu ne tueras pas »« tu ne tueras pas » signifie quand 20% de la population mondiale consomme les ressources de telle manière qu'il vole aux nations pauvres et aux futures générations ce dont elles ont besoin pour survivre. Et il rapporte cette réalité de « tu ne tueras pas ». Je crois que quelquefois, même si on a l'habitude, là, il rappelle de façon très vigoureuse cette responsabilité. Et puis, eh bien, c'est à nous d'y réfléchir et on va faire une pause musicale.
Le sol a donné de quoi sortir de la misère aux maigres héritiers de ce qui fut un champ de pierre. Les gros propriétaires se sont déclarés brusquement possesseurs titulaires appuyés du gouvernement. Garder l'espoir est difficile quand l'argent ripaille au Brésil. Garder l'espoir est difficile quand l'argent ripaille au Brésil.
Eh bien, nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel dans l'émission Les mots de la foi et nous abordons la deuxième partie de l'émission, le regard de Jésus sur cette création. C'est au numéro 96.
Oui, Jésus reprend la foi biblique au Dieu créateur en insistant sur le fait que Dieu est Père. Et en dialoguant avec ses disciples, il les invitait à reconnaître cette relation paternelle que Dieu a avec toutes les créatures. Et à plusieurs reprises, il l'a rappelé avec des images qui nous semblent gentillettes, mais qui sont très importantes. Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 as. Pas un d'entre eux n'est un oubli devant Dieu. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers. Votre Père céleste les nourrit.
Ce qui veut dire que là, non pas qu'on a laissé tout aller et ça va venir tout seul, mais c'est peut-être à être attentif, je cite, à la beauté qu'il y a dans le monde. Quand le Christ parcourait chaque coin de terre, il s'arrêtait pour contempler la beauté semée par son Père et inviter ses disciples à reconnaître dans les choses un message divin. Regardez les champs blancs pour la moisson. Le royaume des cieux semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Et tout le monde connaît la plus grande des plantes potagères avec cette plus petite graine. Donc, une pleine harmonie avec la création.
En effet, alors, Jésus n'apparaissait pas comme un ascète séparé du monde. Il disait « Viens le Fils de l'homme mangeant et buvant ». On dit « Voilà un glouton et un ivrogne ». Il était loin de déprécier le corps et la matière et les choses de ce monde.
Alors, il travaille aussi de ses mains, au contact quotidien avec la matière créée par Dieu, pour lui donner forme avec son habileté d'artisan. La plus grande partie de sa vie a été d'être charpentier. On rappelle dans Marc, n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie ? Le pape Jean-Paul II enseignait qu'en supportant la peine du travail en union avec le Christ crucifié pour nous, l'homme collabore avec le Fils de Dieu à la rédemption, ce qui implique peut-être que chaque homme puisse collaborer et qu'il y ait du travail pour tous les hommes. Mais ça, on le verra plus tard. Au 99, le mystère du Christ est présent depuis l'origine de toutes choses.
Oui, alors, c'est tiré de Saint Paul. Tout est créé par lui et pour lui. Et dans l'évangile de Jean, le prologue montre l'activité créatrice du Christ comme parole divine, hein, le Logos. Mais cette parole s'est faite chair. Et c'est toute cette perspective de l'incarnation. Une personne de la Trinité s'est insérée dans le cosmos créé en y liant son sort jusqu'à la croix.
Donc on a ici l'attention que le Christ, dans sa vie terrestre, portait au monde. Et puis, bien sûr, c'est toujours dans saint Paul, on reconnaît sa seigneurie universelle.
Oui. Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute plénitude et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix.
Projection à la fin des temps. Dieu sera tout en tous. Les créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité purement naturelle, parce que le ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude, même les fleurs des champs et les oiseaux qu'émerveillés il a contemplés lui-même sont remplis maintenant de sa présence lumineuse. Nous terminons aujourd'hui le deuxième chapitre de l'encyclique Loué sois-tu. On vous invite bien sûr à la lire et à tous. Je dis bonne semaine. Et je rappelle aussi que le 2 février, le père Grégoire Cata, jésuite, viendra présenter cette encyclique en associant de façon un peu plus précise, en une soirée on ne peut pas tout faire, l'implication sociale de cette encyclique. Le 2 février à Dreux, à l'église Saint-Michel. Bonne semaine à tous.